son des bobines, Luffy femme, ses films et ses vampires.
You are too late. My blood now flows through your veins.
Je suis Dracula. Et je vous souhaite la bienvenue, Monsieur Hark, dans ma résidence.
Bienvenue sur On des Bobines, l'émission où l'on parle du Festival International du Film d'Amiens. Et comme depuis le début de la semaine, on revient sur les films, les séances et les interviews que l'on a effectuées hier. Car oui, les émissions, elles sont enregistrées la veille et c'est pour que vous puissiez rattraper tout ce que vous avez raté du festival. Et pour ça, je suis toujours entourée de ma fine équipe, Adam, Thomas et Gaël. Salut.
Salut.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour à tous.
Alors pour cette troisième émission, on va aborder la section Film et Seul. Et les coups de cœur, avec quelques avant-premières où on a été. Et pour commencer, moi je m'adresse à toi Thomas. Alors tu n'as pas encore vu le film dont on va parler car il passe ce soir à 20h45, mais tu as interviewé son réalisateur Thierry Nouel. Je parle donc du film Grève à la chaîne. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'interview, de quoi vous allez parler ?
J'ai interviewé Thierry Nouel sur son travail, hein, sur ce qu'il fait, et son implication par rapport au festival du film.
Filmer seul aussi, ça implique régulièrement des plans fixes, non ?
Non, pas forcément. Le réalisateur peut très bien être mobile. Enfin, il a pas évidemment, il n'a pas de machinerie avec un travelling, mais dire, il peut très bien faire de la caméra portée. Et puis faire des travelling en marchant, en reculant, et puis il peut faire des zooms et des dézooms. Hein. D'ailleurs, je ne connais pas tous les réalisateurs qu'il y a dans la section, mais je connais Dieudo Amadi, que j'ai déjà pu interviewer dans Feu, mon émission au cinéma, dont l'un de ses films, Kinshasa Makambo, passe le jeudi 21 à 21h30 au Petit Théâtre. Donc c'est l'un des films que je peux au moins conseiller, parce que c'est un réalisateur plutôt intéressant, qui est plutôt engagé et dénonce des choses qui concernent la République démocratique du Congo. Et donc Thierry Nouel, par rapport à son film Grève à la chaîne, il a filmé tout seul deux grèves à France 3 en 97 et en 2002, si je ne me trompe pas, mais il explique tout ça dans l'interview.
Thierry Nouel, oui. Vous êtes monteur, réalisateur, vidéaste. Et vous êtes aussi parfois critique de cinéma, vous écrivez des articles sur le cinéma, la vidéo, des articles analytiques, hein.
Oui.
Vous n'êtes pas dans l'actualité comme vous avez tendance à le dire. Et vous êtes quelque part aussi à l'initiative, enfin pas à l'initiative, mais vous êtes le déclencheur de la section Filmer seul quelque part.
Oui, voilà, donc disons que j'ai beaucoup filmé seul depuis des années et je participais à une revue qui s'appelle La Revue Documentaire, et on a pensé avec Claude Béblé, qui était un spécialiste du son, qu'on pourrait faire un numéro sur cette tendance qui était en train vraiment de s'installer dans le cinéma. Alors on dit cinéma, mais souvent les gens filmaient en caméra vidéo autonome et légère. Et donc on a fait un numéro où on a à la fois essayé de réfléchir un peu sur cette question, moi de façon un peu générale, lui spécifiquement sur le son, il y a même eu des articles sur le matériel, quel matériel utiliser, en convoquant, on va dire, une réflexion avec, je crois, 34 ou 35 filmeurs seuls, français et étrangers, qui pratiquaient donc ce type de cinéma, et qui est très varié, et donc avec les questions qu'on avait posées, on voyait qu'il y avait des dispositifs extrêmement différents, soit des choses très personnelles, soit aussi des comptes rendus de ce qui se passait dans la société, des gens qui travaillaient entièrement seuls depuis la caméra jusqu'au montage, et même qui diffusaient eux-mêmes, comme Boris Lehmann, le Belge, leur film, qui les accompagne toujours, et d'autres qui, à la fin du tournage et éventuellement du montage, entraient dans une production plus, on va dire, plus classique. Donc on a essayé d'ouvrir à la fois de façon internationale et de regard sur ce type de cinéma. Et dans ces cinéastes, il y a ceux qui, on va dire, viennent du cinéma, comme Alain Cavalier, qui est assez connu, qui a fait des films très lourds, Catherine Deneuve, Alain Delon, et qui un jour a décidé de filmer seul, avec la petite caméra numérique, ou d'autres comme Pedro Costa, qui est un Portugais. Et puis il y a des vrais, j'allais dire, filmeurs seuls d'origine, qui n'ont jamais filmé autrement que seuls. Et ça donne aussi, par exemple, les journaux, c'est-à-dire des gens qui sont filmeurs en permanence, qui font un espèce de film infini au cours de leur vie. Donc on a un modèle, mais qui est tellement varié, tellement ouvert, que chacun peut s'y inscrire si un jour il a envie de raconter soit son histoire intime, ses relations avec son entourage, ou la société, ou le temps qui passe. C'est un format extrêmement ouvert, et je pense que c'est ça, ce qui a séduit un peu le festival d'Amiens. Ça permettait, je crois qu'il passe une dizaine ou une douzaine de films, de montrer des choses très différentes, avec des gens d'âges différents, des approches du cinéma différents, et qui posent un peu la question d'une autre catégorie de cinéma, c'est-à-dire que le cinéma en général est une chose d'abord écrite, ensuite qui demande une production, donc de l'argent, qui demande après des équipes techniques, des gens formés, des métiers, alors que ce cinéma-là est presque l'inverse, c'est-à-dire que le jour où quelqu'un, même un amateur, prend une caméra et décide de faire un film, c'est-à-dire une chose un peu close, qu'il va montrer à quelqu'un et dans un public, on est dans un type d'art, on va dire, qui est proche du peintre ou de l'écrivain, c'est-à-dire que l'écrivain a besoin de son stylo et d'une feuille. Le peintre de peinture, de gouache ou d'un dessin et d'un crayon et d'une feuille de papier. Donc ça ouvre le cinéma à, disons, des modules légers. Ça allège la pratique du cinéma, et ça ouvre aussi à des gens qui peuvent être des artistes, on va dire, très longtemps, qui ont fait beaucoup de films, ou des gens qui n'ont aucune expérience. Et comme un peu un peintre peut se révéler parce qu'il peint, un écrivain parce qu'il écrit, un cinéaste ou un vidéaste peut se révéler parce qu'il filme.
Thierry Nouel, vous êtes ici entre autres pour présenter des films, dont Vacances prolongées de Johan van der Gogh, oui, mais surtout aussi pour présenter votre film Grève à la chaîne, oui, qui passe mercredi 20h45. Mm. Au cinéma Arsenal, que pouvez-vous nous dire sur ce film?
Alors, bon, ce serait une longue histoire. C'est un film que j'ai tourné en deux périodes, donc 97, grosse grève à France 3, la mire à l'antenne pendant 11 jours, qui est une des dernières grandes grèves de télévision, et 2002, nouvelle grève de 3 semaines, et deux grèves très différentes, où une, il y a des syndicats qui négocient, qui obtiennent quelque chose, mais en même temps qui créent une crise à l'intérieur de la rédaction, et l'autre, 3 semaines où il ne se passe plus rien, on va dire, au niveau revendicatif, c'est-à-dire qu'on n'obtient rien et qu'on peut dire que c'est les deux siècles. Ça raconte un siècle où la négociation sociale, le conflit social amène des changements, des négociations, des discussions et une amélioration, on va dire, et un siècle peut-être où on est maintenant, où le syndicalisme est en crise, la démocratie n'est plus trop respectée, les protestations, comme on dit, on les entend, mais on ne les écoute pas. Et donc j'ai essayé de, seul à la base, comme un gréviste, puisque j'étais monteur à l'époque à France 3, observe et regarde et réfléchis sur un conflit. Il se trouve que j'ai fait un premier montage et la production donc d'Agathe Film s'est intéressée, et j'ai pu faire un montage un peu plus court avec un commentaire et proposer ce film, et il n'a jamais pu ni être passé à la télévision, ni dans un cinéma, ni même sur un câble. Je pense qu'on dit qu'il n'y a plus de censure en France. Or, en fait, quand il y a des sujets qui touchent très profondément la société, je crois qu'il y a une certaine frilosité maintenant, et que les intermédiaires, quelquefois, n'osent pas montrer les films. Alors il y a eu des festivals qui les ont montrés, qui l'ont montré, il y a des salles de cinéma qui se sont engagées un peu solitairement à le montrer, mais c'est un film qui depuis 2006 n'a pas rencontré, on va dire, le grand public. C'est un peu pour moi une assez grosse douleur qu'un film qui proposait une telle réflexion sur le problème démocratique, qu'on vit de façon très forte en ce moment n'ait pas pu être partagé avec un grand public. Et je pense, chaque fois qu'on l'a montré, qu'il y a des débats absolument passionnants là-dessus, et que, en quelque sorte, la distribution un peu du cinéma ou la programmation de la télévision craint peut-être que le public se transforme en un débat démocratique, alors que c'est ce que propose le film, avec une réflexion là-dessus sur que faire aujourd'hui quand ces choses-là ne fonctionnent plus très bien. Alors, à chaque fois qu'il passe, et j'espère que demain, il y aura un vrai débat là-dessus, mais en même temps, disons que c'est un film qui reste un petit peu dans un demi-placard, on va dire, c'est-à-dire qu'il est montré, mais pas partagé. Et quand on fait des films, on espère toujours le partager au plus large et puis passer au suivant. Et là, il me reste un peu sur le cœur, on va dire. En même temps, je suis absolument ravi que Amiens propose de le montrer, justement au milieu des films seuls, au milieu des débats qui ont lieu ici, et qu'un public, un vrai public de cinéma, en discute.
C'était l'interview de Thierry Nouel qui vient donc présenter son film Grève à la chaîne ce soir à 20h45 au cinéma Orson Welles. Et ben nous, de notre côté, avec Gaëlle, on est allé voir lundi soir Les Reines du Drame d'Alexis Langlois en avant-première. On s'écoute d'abord la bande-annonce suivie de l'interview de sa réalisatrice et de sa chef opératrice Marine Atlan. Et on revient juste après pour faire un petit débrief sur ce qu'on en a pensé.
Bonjour à tous! Ici, c'est Stevie Shady, la plus grosse bitch des internets. Et j'ai moins de 2 minutes pour vous parler des Reines du Drame. Les Reines du Drame, c'est l'histoire d'amour passionné entre Mimi Madamour, une chanteuse pop, et Billy Collère, une punk écorchée. Pendant 50 ans, les deux stars vont s'aimer et se déchirer devant les yeux ébahis de leurs fans en folie. Les Reines du Drame, c'est une comédie musicale queer qui va te faire saigner les yeux, les oreilles et le cœur.
La musique ne séparera jamais, ok?
T'étais vraiment la plus belle ce soir. Je voyais que toi dans la salle.
Les Reines du Drame, la presse en parle.
Patouche, patouche, si tu veux ma bouche.
Les Reines du Drame, le seul film qui réconcilie les cunts et les punks, les mères aux plongeons carrés et les petites miss au nombril percé. Un film pour toute la famille, s'il te plaît. Alors mets-toi un rappel et note sur ton tel. Les Reines du Drame arrivent le 27 novembre au ciné et elles vont tout défoncer. Les Reines du Drame, un film de Alexis Langlois. Souviens-toi, les Reines du Drame, les Reines du Drame. Allez, bisous les morues.
Comment allez-vous depuis hier soir avec la projection du film ?
Ben écoute, ravi d'être là, un peu fatigué, tout s'enchaîne très vite, mais ravi, l'échange d'hier a été très dense et fructueux, c'était ouais, un bel échange. Et puis là, la discussion aussi, ben oui, c'est toujours intéressant de parler aussi concrètement de l'envers du décor, donc de comment on a travaillé, et donc voilà.
Justement, hier, tu as évoqué que ça faisait 6 ans que tu portais le projet. Je voulais savoir un petit peu ce qui te tenait à cœur dans ce projet.
Énormément de choses. De raconter une grande histoire d'amour. Impossible, enfin en tout cas pas impossible, mais empêché. Ça me semblait être un bon matériau de mélodrame. Donc ça me rappelait déjà le cinéma qui m'est très cher, comme notamment les films de Douglas Sirk ou ceux de Fassbinder par exemple, où c'est toujours le monde normé, le monde classiste, le monde homophobe qui justement crée des comportements empêche les gens de se retrouver. Donc ça me tenait vraiment à cœur de raconter une histoire comme ça mélodramatique mais avec des personnages queer qui me ressemblent et vraiment au sein de notre communauté, quoi. Et ben, ce qui m'a fait tenir et ce qui me tenait à cœur, c'était de porter ce projet parce que j'avais vraiment envie de rien lâcher, de surtout pas capituler face à toutes les, peut-être la, parfois la résistance qu'on a eue. Donc ça, c'est ça qui faisait tenir et l'envie de que ce film existe coûte que coûte, quoi.
Tu t'es entouré de plusieurs compositeuristes pour ce film, dont notamment Yael. Et comment ça a influé sur la création du film? Parce que c'est un vrai film musical, presque une comédie musicale. Comment ça a germé tout ça et la création finalement du film?
Eh ben, en fait, tout était très écrit dans le scénario. Déjà, il y avait une partition précise, il n'y avait pas spécialement les paroles, mais il y avait ce que les morceaux racontaient, comment les morceaux transformaient les personnages, comment les morceaux décrivaient les émotions des personnages. Donc c'est vraiment la musique, les chansons qui font avancer le récit finalement. Et ça, donc ben après, avec toutes les personnes qui ont fait la musique, que ce soit Yael, Rebecca Warrior, Mona Soyoc, Louise Bizou, Pierre Desprat, et ben c'était vraiment de leur donner ce scénario qui était comme une partition. Et après, l'idée, c'était de que chacun, chacune apporte son univers personnel et qu'il y ait vraiment tous ces styles musicaux comme ça, très différents, qui correspondent soit aux époques, soit encore une fois les émotions des personnages, etc. Et ensuite, là, c'était un travail de dialogue à partir de cette partition précise. C'était de voir ce que chacun pouvait apporter, comment parfois les idées allaient plus loin, parce que voilà, il y a des choses qu'on n'imagine pas quand on écrit le scénario. Puis c'est un langage différent, la musique et l'écriture, quoi. Et puis parfois on a coécrit les paroles avec Yael, notamment on a écrit les deux chansons de Mimima d'amour, coécrit ensemble.
Merci,
et...
parce qu'elle reste bien dans la tête aussi.
Ça, qu'elle reste bien dans la tête, c'est plutôt le travail de Yael pour le coup. Je pense que c'est plutôt cette musique entraînante qui est un peu maléfique d'ailleurs, parce qu'on a du mal à s'en détacher. Et après, il y a Carlota Coco qui a écrit deux chansons aussi, Carlota Coco qui a coécrit le film avec moi, avec Thomas Collino aussi. Et ensuite, moi, j'ai écrit les restes des chansons. Voilà, comment ça s'est passé.
Toi, Marine, tu es la chef opératrice du film. Comment est-ce que tu as abordé, toi, justement, comment est-ce que vous avez travaillé ensemble dessus?
Eh bien, en fait, quand j'ai lu le scénario la première fois, je pense qu'effectivement, la question du genre, c'est-à-dire de la comédie musicale, des morceaux, de ces morceaux qui sont différents, de ces époques qu'on traverse, donc de le récit, la fresque, cet enjeu-là un peu de qu'est-ce que l'image doit raconter et prendre en charge en termes de temporalité et de différents styles. C'est un truc dont on a parlé assez vite en se disant qu'il fallait que l'image puisse traverser plusieurs régimes, quoi, et se métamorphoser un peu à la fois comme les personnages et traverser les émotions que traversent Mimi et Billy. Et en même temps, il fallait garder une vraie identité, singularité. Et donc, on a réfléchi à comment poser cette identité. Il y a l'idée du Technicolor des années 2000, donc d'une esthétique assez saturée, avec des couleurs très vibrantes, avec beaucoup de diffusion dans les lumières. Et donc on a un peu créé cette image là comme ça, et puis aussi en regardant des références, que ce soit de films de cinéma classique hollywoodien, mais aussi des émissions de télé-réalité, des clips des années 90. Et voilà, l'identité de l'image, elle vient un peu de toutes ces ambitions qui amène à ce qu'on a fait.
Tout début, ça s'ouvre sur une vidéo YouTube, et le YouTuber est Bilal Hassani. Quand tu as casté les actrices pour ce rôle, est-ce que tu pensais à Bilal Hassani ou pas du tout? Je sais qu'il y a 6 ans, tu avais vu la vidéo de Bilal Hassani sur YouTube quand il annonce son coming out. Est-ce que quand tu as écrit le rôle, tu as pensé directement à lui, ou est-ce que vraiment tu as laissé, un casting
Non. Non, parce que pour la simple et bonne raison que, comme en plus Bilal, donc au début quand j'ai découvert, il était encore sur YouTube, mais ensuite très vite il a fait de la musique. Et le rôle, même s'il a une des premières idées, notamment le fait que ce soit raconté par un YouTuber, ça venait de cette vidéo de Bilal là, mais c'était plus l'idée de la vidéo, pas vraiment ce qu'il racontait dans cette vidéo. Et après, non, le personnage a été beaucoup plus inspiré de plein d'autres YouTubers. C'est un peu comme tous les personnages du film, c'est vraiment des amalgames. amalgame entre plein de choses pour créer une chose singulière. Et donc non, Bilal n'a pas spécialement inspiré le rôle, enfin même pas vraiment. Mais à un moment donné, comme on commençait à se rencontrer, et moi c'est vrai que 95% des gens qui sont dans mes films, c'est vraiment des gens que j'ai rencontrés dans la vraie vie, quoi. Et là j'avais l'impression qu'il se créait une connexion avec Bilal, et là c'est vraiment ma productrice qui m'a dit: il se passe un truc, peut-être que ça vaudrait le coup de lui proposer ce rôle. Et moi je pensais que justement, comme il y avait potentiellement un lien avec la vraie vie, que ça serait quelque chose qui ne l'intéresserait pas du tout. Mais au contraire, ça l'a vraiment amusé. Et je pense qu'au-delà de son rôle, le projet du film l'excitait, comme c'est vraiment un passionné aussi de pop culture, de chanteuse. Voilà. Et puis c'est aussi le défi, parce que c'est vraiment un rôle de composition. Et ça, je pense que c'est très amusant pour un acteur qui débute, qui joue pour la première fois au cinéma. Il y a quelque chose d'amusant de créer un rôle comme on crée un personnage de cartoon, par exemple. Et justement, c'était ça, c'est s'éloigner de soi-même. Et je pense que c'est agréable de peut-être pas trop d'avoir l'impression d'être complètement une autre personne, quand c'est moins angoissant, je pense.
J'ai une question personnelle, mais Stevie, c'est la première fois que j'ai entendu le nom, quand il se présente au tout début et qu'il dit Stevie. Est-ce que c'est une référence à Stevie de Love Story ?
Oui, sans doute. En tout cas, je me souviens avoir été hyper touchée par ce personnage à la télé, parce que c'était un personnage vraiment de folle, quasiment androgyne. Et en fait, on n'en voyait pas vraiment à la télé. Et je crois que en tant que personne queer, ça a été, ça a été fort en fait de voir cette personne à la télé en 2001. Ouais.
Moi, vu que c'est ton premier long métrage, même si t'as fait des cours avant, est-ce que t'avais une crainte ou une appréhension ou une impatience aussi de décupler ton univers sur une plus longue durée, quoi.
Je n'avais aucun doute, j'étais persuadée que ça allait être complètement génial. Non, je plaisante évidemment. Quand on fait des films, c'est hyper angoissant, surtout que quand on fait ce type de film qui est peut-être un peu moins commun dans le paysage cinématographique français. Déjà que quand on le produit, on cherche de l'argent, on vient toujours nous ramener qu'on est différent. Donc, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'appréhension. Mais encore une fois, là, ce film, c'est un film queer parce que on l'a fait quand même avec des gens très très proches, notamment Marine qui était dessus bien avant les premiers financements, Inès la productrice, une partie des actrices aussi. Donc en fait, le faire en groupe comme ça donne de la force. On a fait front contre l'adversité, quoi. Donc le courage, il vient vraiment du fait de le faire en bande. Et ensuite, il y a aussi la durée est différente, mais ça, c'était plus à l'écriture que ça se jouait, c'est-à-dire que c'était pas la même dramaturgie. Je savais que là, contrairement au cours, il fallait trouver un rythme qui était... Voilà, ça pouvait pas être aussi intense que mes courts-métrages, qui étaient un peu comme des shots comme ça, avec un montage aussi peut-être plus excité que là. Et là, ce qui était très important, c'est qu'on soit bouleversé par cette histoire d'amour. Donc là, déjà, dès l'écriture, c'était différent. Donc c'était un peu le défi, c'est qu'on soit transporté par cette histoire, qu'on soit bouleversé et qu'on ressente l'empêchement comme les personnages le vivent, quoi. Et après, concrètement, dans le travail, à part l'écriture, ce qui était être sur le plateau, moi, ce qui m'angoissait concrètement, c'était de tenir le rythme. C'était pas un très long tournage, ça a duré que 5 semaines, mais un court-métrage, le plus long que j'ai fait, c'était 10 jours, donc c'était quand même beaucoup plus du double. Et comme moi, mon énergie est un petit peu explosive, j'avais peur de pas tenir sur le rythme, donc c'est ça qui m'angoissait. Mais après, c'est vrai que sinon, à part ce travail de dramaturgie, de découpage aussi qu'on avait fait en amont, qui était plus long parce que ça se déployait sur ça, mais le travail concret sur le plateau, c'est assez similaire parce qu'encore une fois, je connaissais bien les gens, quasiment toutes les personnes de l'équipe, donc ça avait plutôt l'air d'être la continuité. Et les vraies différences, voilà, c'était plutôt dans la prépa, quoi.
Et moi, j'ai une dernière question. Est-ce que vous êtes contente d'hier de la réaction du public ?
Ah. Non, moi je m'attendais à une standing ovation qu'on n'a pas eue, donc j'étais très déçu. Non, mais j'ai l'impression que c'est toujours difficile de juger. J'ai quand même l'impression, moi je suis ressortie assez contente de cet échange qui était vraiment très riche, et c'est rare de faire un échange aussi long d'ailleurs.
Oui, ça a duré longtemps.
J'avais l'impression qu'il aurait pu durer plus longtemps en plus. Oui, j'ai l'impression que les gens étaient curieux, il y a eu quand même c'était une séance assez joyeuse, quoi. Mais c'est difficile de prendre la température tout à fait. Mais
est-ce que vous étiez dans la salle?
Non.
Est-ce que vous avez entendu les rires du public?
Non.
Ah, ça riait énormément dans, la cool. salle. Il y avait vraiment beaucoup de personnes qui riaient, en fait. Mais il y a beaucoup d'humour dans ce film.
Oui, oui, oui. Ben, c'est un peu... même si on a envie de mourir, rions quand même.
Je trouve que c'est une belle phrase de fin d'interview.
Bah, très dramatique, ça s'appelle Les Reines du Drame, c'est pas pour rien.
Eh bien, merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
On vient de s'écouter l'interview d'Alexis Langlois, réalisatrice du film Les Reines du Drame. Et si vous avez raté l'avant-première qui a eu lieu lundi, pas d'inquiétude, puisque le film sort en salle ce mercredi 27 novembre. Bon alors, je me tourne vers toi Gaël, qu'est-ce que tu en as pensé du film ?
Écoute Colin, c'est une espèce de comédie queer, ultra assumée, ultra pop. C'est dans la continuité de ce qu'avait fait sa réalisatrice avec son court-métrage Les Démons d'Oroti, qui avait été présenté il y a 2 ans, du coup, je crois, au FIFAM. Et voilà, et donc comme dans les Démons de Dorothy, Alexis Langlois prenait un peu toute la culture un peu pop des années 2000 avec laquelle elle a grandi, notamment dans les Démons de Dorothy, c'était surtout les séries télé comme Charmed ou Buffy, c'était très cool et très fun. Et là, du coup, elle s'attaque plutôt à tout ce qui est vraiment les émissions comme Popstar, enfin La Nouvelle Star, toutes ces émissions-là de télécrochet qu'on a tous connues en France dans les années 2000. Et du coup, elle fait vraiment une espèce de... Ce que j'appellerais un petit peu... Moi, c'est un peu le truc qui me fait dire ça, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord. Mais ça, pour moi, c'est un peu l'anti-Fatal de Michael Youn.
Ça y est,
voilà,
il a pu le
placer. Que je le dise. Parce que dans les années 2010, il y a eu Fatal, qui était le premier film de Michael Youn, qui était une comédie qui se moquait un petit peu, justement, de l'industrie musicale. Et mais avec un humour très, très macho, très viriliste. Là, je trouve que, du coup, Alexis Langlois fait une sorte de contre-Fatal, un petit peu, dans le sens où on est sur une grosse critique de l'industrie un peu musicale, où ça parodie beaucoup, quand même, la chose. Pourtant, il y a quand même une bande originale qui est ultra assumée comme une bande originale des années 2000, hein, vraiment. Mais voilà, c'est quand même une proposition singulière qui détonne dans le paysage du cinéma français actuel, il n'y a pas à dire. Donc pour ça, il faut y aller. Voilà.
Oui, et puis Bilal Hassani est quand même incroyable dans ce film. On passe à un autre film coup de cœur qu'on a vu hier après-midi à 14h, et c'était Les Lieux de Virginia Woolf, qui est un documentaire réalisé en 1980 par Michel Porte. Et toi, Adam, tu t'es laissé bercer par les beaux écrits de l'écrivaine.
Oui, parce que c'est un moyen métrage du coup d'une quarantaine de minutes à peu près, et c'est comme tu l'as dit, en fait c'est une sorte de berceuse un peu avec les écrits de la célèbre écrivaine, en fait, où en même temps les images sont habillées par les lieux qu'elle a visités au cours de sa vie. Et en fait, Virginia Woolf, elle a toujours cette écriture qui n'appartient qu'à elle. Et finalement, en fait, c'est plus autant qu'un hommage, c'est aussi en fait que on sait que Virginia Woolf sait décrire des choses, mais en même temps, elle les décrit d'une manière très particulière. Et finalement, c'est très intéressant comme processus d'intégration de la littérature, en tout cas au cinéma.
On aura un troisième film dans la catégorie coup de cœur à vous présenter. Avec Adam, on a interviewé Victor Rodenbach, qui est venu présenter son film hier soir en avant-première Le Beau Rôle. Et donc, on vous réserve cet échange pour l'émission de demain. Je vous propose de passer à l'annonce des séances de la journée. À 13h45, vous avez une série de courts-métrages qui fait partie de la section Afrofuturisme et Futurisme africain. Et au Ciné Saint-Leu, il y a 2 films en compétition, dont un que Adam a beaucoup aimé, Piel en Primavera, de Yennifer Uribe Alzate. Je t'épargne la prononciation.
Merci beaucoup.
Je t'en prie. On retrouve encore une fois en compétition court-métrage à 16h le programme 2. On retrouve aussi au Ciné Saint-Leu à 19h Terre rare, chronique d'une lutte collective de Paolo Carnero. Et le soir, donc vous avez le choix entre, comme on l'a dit en début d'émission, Grève à la chaîne à 20h45 de Thierry Nouel, Kyuka Before Summer's End de Kostis Charamountanis à 21h15 au Petit Théâtre de la Maison de la Culture, et Nope au Ciné Saint-Leu à 21h de Jordan Peele. Est-ce que vous avez un petit mot à dire pour inciter les auditeurs, auditrices à venir voir ce film?
Allez voir Nope de Jordan Peele, qui est un long métrage fascinant, qui est sûrement, pour moi en tout cas, son meilleur long métrage, son plus abouti. C'est-à-dire, c'est une lecture des origines de l'histoire du cinéma, mais en même temps aussi ce qu'on a caché, ce qu'on a... dissimulé. Il y a ce plan avec Oji au début du film où il est devant un fond vert et en fait il disparaît à l'écran, comme si on a aussi voulu cacher des choses, mais aussi en même temps capturer quelque chose qui qui est de l'ordre de quelque chose qui n'existe pas, avec un espèce de vaisseau, vous verrez si vous n'avez pas vu le film, une espèce de vaisseau alien un peu bizarre, un peu très particulier. L'étrange
est très... Tu vends très bien...
Ouais, mais c'est un long métrage en fait qui est presque de l'ordre de l'avant-garde, quelque chose en fait qu'on n'a jamais vu, qu'on a... c'est un peu obvious de dire ça, mais c'est vraiment un film qui est... Qui n'appartient qu'à lui et en fait qui est pile en fait a toujours construit vers le cinéma de demain en abordant des thématiques très précieuses, très très importantes et vraiment pour le coup c'est pour moi un immanquable de ce festival et très content qu'il le diffuse du coup au Ciné Saint-Leu.
Quelque chose à ajouter?
Je suis assez d'accord avec Adam, je pense que c'est un film, le film le plus abouti de Jordan Peele et qui parle aussi de l'exploitation animale, notamment dans le cinéma. Et c'est un peu un film labyrinthe, hein, parce que je pense que Jordan Peele, c'est un vrai intellectuel. Et donc, effectivement, je le recommande aussi beaucoup. Et vous allez voir, c'est un film très surprenant aussi, avec des images assez mystérieuses, notamment une histoire de chaussons. Mais je vous en dis pas plus.
On débobine, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission à la retrouver comme d'habitude sur radiocampusamiens.fr et nous on vous dit à demain aux mêmes heures. Salut.
À demain.
Salut.